Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h03 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme. C'est la deuxième heure de ce Roten sans flamme en mode dernier Roten sans flamme de l'année. Mais quel Roten sans flamme, il est exceptionnel. Franchement, on a bien rigolé. Vous avez bien rigolé, je suis sur le volant. Faut pas lâcher le volant, hein, c'est dangereux. Vous pouvez conduire de temps en temps avec le genou, mais pas tout le temps. On est avec Manu Petit, on est avec Benoît Boutron.
Ne dis pas, il y a des gens qui
avec,
vont faire.
Avec non, Benoît Costil. De quoi ?
Ça ne se fait pas.
Non, en plus, je viens d'enregistrer la campagne, la sécurité routière.
En plus,
sûr, ouais.
Non. Mais surtout, prenez le temps de nous écouter jusqu'au bout.
Vous allez m'écouter.
Ça va être fantastique.
Les vacances,
ambassadeur, ça.
Oh, magnifique.
Ça va être fantastique.
Alors, à 19h45, le dernier quiz de l'année 2025 de Louis Gerbier, avec toujours ce cadeau exceptionnel. L'enceinte prodige de la marque française, absolument. Fabriquée à partir de matériaux recyclés et durables, dotée d'un design intemporel, cette enceinte offre une sonorité exceptionnelle pour vous inscrire.
Lui, il est cramé, hein, Louis Gerbier. Depuis le début de semaine, c'est catastrophique.
Mais non, ça va mieux.
Il est sur la sellette. Hein,
il est fatigué, ça va.
Oh. Burn-out.
À 19h30, la barre spéciale bilan de mi-saison. On a fait les clubs, on a fait les entraîneurs, on fera les joueurs ce soir. Est-ce que Greenwood est forcément le MVP de ce début de saison, hein? Les joueurs et les consultants.
Ah, les consultants de Roten sans flamme.
Consultants de Roten
on fait les tops et les flops de Roten sans flamme. Les consultants.
Je pensais que vous parliez des consultants d'une façon générale.
Et il y a toujours le jeu de Noël sur RMC.
RMC.
Là, c'est là maintenant.
Un fabuleux Noël.
On gagne du cash sur RMC.
Et là, il y a du cash.
En ce 19 décembre, 500 euros ou 1000 euros, voire 5000 euros.
500 euros, déjà, on ne regarde pas.
Ah non. 1000 euros, déjà, voire 5000 euros.
Il n'y aura pas 500 euros.
Incroyable.
Là, je vous le dis, je le déchire le papier.
Il faut envoyer
et s'il y a 500 euros, je le double déjà.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est dans ta poche ?
Ouais, ta poche.
Okay. Ouais. Et toi, Manu, tu suis ou pas?
Ouais, mon cul. Ouais. Ta poche aussi. Bah, je prends un peu sur la piche de Benoît et un peu sur la
chaîne. Ouais, je vais te donner les coordonnées, mon inspecteur du fisc, d'accord? Puis il va te transmettre
comment il s'appelle. C'est une somme défiscalisée, Manu. C'est défiscalisée.
On l'embrasse. Vas-y. Donne-moi le prénom.
Non.
Non, c'est surtout un surnom, mais.
Envoyer Noël par SMS.
Mais aussi, je crois qu'il faut bien l'indemne.
Arrête, tu vas te poser des problèmes.
Je suis à vous, tu vois.
Eh ben, c'est quoi, on va
rien foutu.
Et on va faire une doublette avec le mien, tiens.
19h06, tout de suite.
Ils savent tout le bien que je pense de, t'inquiète.
Le Maroc a rendez-vous avec l'histoire.
Voilà pour mettre ce ballon dans la surface, ce sera auprès de la tête et le but. Le but. Et le voilà.
Une belle compétition. On est heureux d'y participer, on est heureux de d'y être et ça c'est le plus important. On va donner le maximum. On a les meilleurs supporters du monde. Quand on a eu besoin d'eux à chaque fois, ils ont répondu présent. Non, Achraf jouera la CAN, ça c'est certain. On est très positif quant à la participation d'Achraf.
Hakimi qui se concentre. Achraf Hakimi qui frappe la Panenka.
À Paris, on est tous sortis, on voulait partager ça, montrer que le Maroc est là, partout. Regarde, toute la rue est rouge et verte.
Mon sang est français, mon cœur est marocain.
Allez, vas-y, Benoît, allez, bouge-moi.
Le grand moment est arrivé pour le Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations.
Il y a encore du boulot. Hein.
Début de dimanche soir, 20h, 35e édition.
Ta femme, elle t'a pas appris.
Maroc-Comores, en match d'ouverture. Eh oui, RMC Radio.
Tu l'as passé comme ça, rassure-moi.
De la Coupe d'Afrique. Ne t'inquiète pas pour ma vie personnelle.
Ah ouais, non, mais là.
L'After Cannes tous les soirs pendant un mois en direct de Rabat. Génération Africa, 19h-20h sur la chaîne YouTube d'RMC Sport du 21 décembre au 18 janvier. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, n'a plus remporté la Coupe d'Afrique
regarde,
depuis 50
bon,
ans. Grosse pression sur les épaules des Marocains. Évidemment, le peuple souffre. Avec Younes Belhanda qui nous rejoint pour parler du Maroc, bien sûr. Salut Younes.
Bonsoir à tous.
Salut Younes. Salut.
Attention Younes. On n'en peut plus, on veut que ça démarre, hein, Younes.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
Ravi de te retrouver, on va parler du Maroc ensemble. On en parle également avec Nicolas Pelletier qui est déjà à Rabat pour RMC Sport. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Nico.
Nico, raconte-nous l'ambiance sur place. Est-ce que ça monte justement cette ambiance autour de la
CAN? Il y a plus de ferveur qu'aux États-Unis ou pas?
Là, c'est tout un pays qui attend ça. Un drapeau partout, sur tous les ronds-points. Le drapeau des 24 nations engagées. On voit que les rues sont propres, tout est clean pour pouvoir accueillir l'ensemble du continent africain et dès la montée dans l'avion. Lorsqu'on a pris l'avion à Paris, on a vu des drapeaux des Comores partout. Les Comores qui affronteront le Maroc dimanche soir face au Maroc dimanche soir à 20h ici à Rabat. Et puis derrière, on a eu droit aux loueurs de voitures qui nous a classé tous les joueurs marocains pendant toute l'après-midi. Donc voilà, ici on ne parle que de ça, que de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et bien évidemment, la seule option pour les Marocains, c'est de gagner. Et Walid Regragui, le sélectionneur, sait très bien que cette pression populaire, elle est énorme.
Je la prends toujours du côté positif, c'est une philosophie de vie que j'ai. Voilà, on a une belle compétition, Inch'Allah la plus belle qui va se passer en Afrique depuis l'histoire de cette CAN. Et dans ce sport, heureusement, malheureusement, mais c'est pour ça qu'il est aimé, tout peut se passer. Mais on espère que ça va se passer du plus positif possible. On a les meilleurs supporters du monde. Quand on a eu besoin d'eux à chaque fois, ils ont répondu présent. Et on sait qu'ils vont être là et qu'ils vont répondre présent. Nous, on va essayer de les représenter du mieux possible et de les rendre heureux à la fin.
Voilà, parce qu'il y a un élément très important que disait Walid Regragui à l'instant, c'est que c'est une répétition pour le Mondial en 2030 qui se tiendra ici au Maroc, mais c'est aussi, on promet, la CAF promet, la Confédération africaine promet que ça sera la plus belle Coupe d'Afrique des Nations avec des stades modernes, filmés par exemple en ultra haute définition. C'est une première pour la Coupe d'Afrique des Nations. Wow. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui sont très importants pour le continent africain. Et dernier élément aussi, c'est que le président de la Fédération Royale Marocaine a donné un petit entretien à l'AFP tout à l'heure. Il a dit cette phrase, remporter la CAN n'est pas un choix, mais une obligation qui s'impose. Voilà, la pression avant cette Coupe d'Afrique des Nations pour le Maroc.
Walid Regragui, c'est déjà que s'il la gagne pas, il va faire le saut.
Exactement. On rappelle qu'il a un contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2026.
Les contrats, je pense que là...
Roten se chauffe, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc résistera-t-il à la pression? 32-16, si vous voulez en parler avec nous. Avant, juste d'en débattre et de poser la question à Younes, une info qui vient de tomber. On va bouleverser le programme de Roten sans flamme à 19h30, on voulait faire le bilan des joueurs et des consultants. Info qui tombe à l'instant, la fin de la collaboration entre la direction technique de l'arbitrage et Michael Landreau. Donc Michael Landreau quitte son poste.
C'est quoi, c'est une démission ou il a été remercié?
Eh ben on en parlera justement à 19h30 et c'est Nico qui nous a
appelé.
Donc on détaillera tout à 19h30.
Tu sais pas en fait.
Bah si, j'ai juste le communiqué, je vais prendre le temps de l'étudier et si tu veux on en parle tout à l'heure.
Ouais,
c'est du journalisme Manu si tu veux. Allons-y sur la CAN du coup. Younes, ton avis à toi, est-ce que le Maroc va résister à cette pression populaire qui va être folle? Parce que là, tu le sais mieux que personne, ça va être terrible pour les Marocains.
Ah, ça va être très très dur. Ça va être très très dur parce que tu la joues à domicile avec 30 millions d'entraîneurs, 30 millions de consultants, 30 millions de gens qui pensent tout savoir sur le football. Mais 30 millions aussi de Marocains qui seront derrière leur équipe s'il y a un bon résultat et s'il y a le trophée à la fin. Mais c'est vrai que c'est une grosse pression. Mais après, il y a des joueurs de talent, des joueurs qui jouent dans de très grands clubs. On voit que Achraf Hakimi, je l'espère, sera en forme et revient de sa blessure et que tout ira bien. Mais c'est vrai que ça va être une pression énorme.
Hakimi a repris l'entraînement collectif. Hein,
c'est fou, quand j'entends Younes, j'ai l'impression qu'il a la pression autant que les joueurs.
Je suis derrière.
Il est tendu.
En fait, je me mets à leur place.
Younes,
je me mets à leur place.
Détends-toi. C'est pas parce que l'Algérie va venir gagner la CAN au Maroc qu'il faut être.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Ça serait tellement beau d'avoir une finale Maroc-Algérie.
C'est magnifique.
Qu'est-ce que
c'est
magnifique, on l'espère. Non, mais ce que j'en pense, c'est que la pression.
Tu connais bien Walid Regragui, d'ailleurs, le sélectionneur marocain.
Walid, et moi je l'embrasse, et j'ai échangé aujourd'hui avec lui, Walid, parce que, en effet, la pression, elle est terrible, et d'autant plus quand t'entends le président de la Fédé, et Younes, il sait mieux que moi, mais quand il y a un président de la Fédé qui te dit c'est une obligation de gagner, déjà, t'imagines la pression qu'il met sur les épaules des joueurs, et du staff, et donc de Walid Regragui, qui est le représentant, qui est le chef d'orchestre. Donc, il sait très bien, Walid, de toute façon, c'est le jeu. Et il l'a très bien dit en conférence de presse. Dans sa communication, il est nickel. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait qu'on l'attend au tournant entre guillemets, et qu'il n'a pas le choix de qualifier le Maroc en finale. Après, une finale, on en a tous joué ici. Tu sais que tu peux être la meilleure équipe, des fois, sur un match, tout peut basculer malheureusement, et des fois c'est le charme du football, la meilleure équipe ne gagne pas tout le temps. Donc c'est pour ça que de là à gagner, lui mettre l'objectif de gagner absolument, c'est une obligation, je pense que c'est pas bon. d'avoir ce discours-là. Après,
parce que c'est une pression négative.
Oui, parce que tu peux lui. Eh, bien sûr que tout le monde le sait. De toute façon, le Maroc, ils organisent avec les infrastructures, tous les moyens qui ont été mis en place. Les résultats récents avec cette demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. Là, le fait d'avoir ce record d'invisibilité. Bien sûr que l'ogre marocain, il est là, il existe et toutes les équipes qui vont jouer le Maroc, ils vont essayer de créer l'exploit parce que ça serait un exploit de battre le Maroc sur ses terres. Une fois que tu sais ça, la pression, elle est déjà logique, elle est énorme. Donc, rajouter encore à ça un discours en disant « Ouais, c'est une obligation », je pense que c'est pas forcément bon pour tout le monde. Maintenant, c'est mon avis.
Après Jérôme, pour revenir sur le président, Fawzi Lekja, il a mis une certaine exigence, que ce soit dans toutes les catégories, que ce soit avec les jeunes. On voit que maintenant, les jeunes gagnent des compétitions.
Gagnent,
on a vu les U20 gagner la Coupe du Monde. On vient de voir hier la Coupe arabe avec Tariq Sekti, gagner la Coupe arabe. Donc, il y a une certaine exigence maintenant au Maroc. C'est plus de participer, c'est de gagner des
trophées.
Non,
mais...
Et surtout, avec ce qu'ils investissent en infrastructure, vous avez vu,
Younes,
le centre d'entraînement à Rabat.
Younes, t'as raison. T'as raison, mais nous on a joué, on connaît aussi, on sait que le professionnalisme, l'exigence, ça fait partie du jeu et c'est souvent le cas des grands clubs. On est d'accord là-dessus. Maintenant, à côté de ça, t'as pas besoin à chaque fois que ton président il te rappelle les choses, sachant que lui, il est pas sur le terrain, il a le bon rôle à l'arrivée. Donc tu sais.
Ah, bah, lui aussi, il a la pression d'en haut aussi. C'est pas c'est la même chose.
Mais chacun la pression.
De tout le monde.
Mais
Manu, toi, tu l'as.
Non, mais après, je pense que c'est positif. Hein, c'est pas négativement. C'est pour, je pense, encourager et mettre un certain niveau et un certain statut pour l'équipe du Maroc.
T'as connu une grande compétition.
Oui, non, mais on doit être, être champion et surtout sur nos terres, tu vois. Donc,
bien sûr.
Histoire de mettre. Mais après, je connais un peu le président. Une fois que la compétition sera lancée, je pense que ça se calmera un petit peu.
Est-ce qu'il ne faut pas remettre justement la CAN à l'heure actuelle, l'obligation, entre guillemets, de gagner de l'équipe marocaine par rapport au contexte qu'il peut y avoir politique et social aujourd'hui au niveau de la jeunesse marocaine? On a le sentiment que le football peut éteindre beaucoup, beaucoup de contestations à l'heure actuelle du côté du Maroc. Est-ce que c'est pas là, surtout, l'obligation de gagner?
Non, après le contexte actuel au Maroc, il y a bien sûr qu'il y a des demandes par rapport au peuple et les gens qui souffrent un peu dans le Maroc. Mais après, le football, c'est à part. Une fois que le football est à la télévision et que les gens regardent le match, ils oublient tout ce qui se passe. Ils oublient tout ce qui se passe. Et ce qu'on... bien sûr, ça ramène du baume au cœur, ça enrage tous les supporters, tout le peuple.
Est-ce que tu crois pas que l'équipe nationale reçoit une pression, à mon avis, exacerbée aussi de la part des autorités à l'état supérieur?
Non, des autorités, il y a personne qui parle avec eux. Il y aura que le président, Fawzi Lekja, qui parlera avec eux. Mais une fois que la compétition sera lancée, il sera derrière eux et il ne mettra pas une pression supplémentaire.
Après, ils sont tous à fond derrière l'équipe nationale, Manu. C'est plutôt une parenthèse
que sont très passionnés, un moment de revendication. Je le vois.
Mais toi, tu l'as vécu, la compète à domicile en 98. Est-ce que tu l'avais ressenti en début de compète?
Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est une extra motivation et ça ne peut être que du bénéfique. Alors, nous, on avait commencé la compétition avec un fardeau qui était symbolisé par des critiques vraiment injustes de la part d'une certaine presse avant qu'on commence. Mais on a réussi à convaincre et à raconter une belle histoire justement aux Français qui nous ont accompagnés et qui ont réussi à être le 12e homme. Mais si tu reprends toutes les grandes compétitions qui ont été créées à la fois par la FIFA, l'UEFA, même la CAN, continent américain, ou asiatique, je suis persuadé que globalement, majoritairement, les équipes qui reçoivent, qui organisent, gagnent. Est-ce que dans l'histoire, on pourrait faire un comparatif? Parce que j'ai le sentiment déjà rien que dans le football, que les Coupes du Monde, beaucoup de pays organisateurs, alors c'est pas le cas à chaque fois, mais beaucoup d'équipes ont gagné la Coupe du Monde.
La CAN, ça arrive pas souvent. Hein.
Ben, je vais vérifier ça, mais
tu as eu la Côte d'Ivoire, tu as eu l'Égypte qui l'a gagné chez elle, tu as la Tunisie qui l'a gagné chez elle.
Souvenez-vous, la dernière, la Côte d'Ivoire,
c'est quand même un impact.
La dramaturgie qu'il y avait eu.
C'est énorme quand même. Si tu arrives à raconter une histoire à ton peuple, ça renverse tout sur son passage, quoi. Ça met sur le plan émotionnel.
Sur la CAN, peut-être qu'il y a, comme tu le dis, Younes, avec les différents. Mais après, moi, j'ai pas le sou. L'Euro, Manu, quand une équipe organise. Alors nous, ça nous sourit bien en France, c'est vrai. Bon, la preuve, c'est que malheureusement, le dernier Euro, on l'a perdu au pénalty ici en France contre le Portugal.
On l'a gagné en France également.
Mais on l'a gagné. C'est vrai que nous, ça nous sourit. Mais sinon, ça se vérifie pas ailleurs.
Sur les 20 dernières années, il y a que la Tunisie en 2004 et c'est la Côte d'Ivoire en 2023 qui ont gagné la CAN à domicile.
Et tu vois, sinon, sur les 20 dernières années. Et donc, jouer les 4 ans. Donc, pas beaucoup. Ouais. Hein. Non, c'est pas une.
Tous les 4 ans, la CAN.
Tous les 4 ans, la CAN, non ?
Il y en a eu des fois tous les.
Des fois, il y a eu tous les 2 ans.
3 ans, des fois, il y a eu.
Après, on rappelle.
Ça fait.
La dernière, c'était 2023, donc c'était il y a 2 ans. Donc, il y a eu.
2023, 2021, tous les 2 ans.
Exactement. Benoît, comment tu vois ça, toi ? Est-ce que tu penses que le Maroc va résister à cette pression populaire à domicile ?
Je l'espère, hein. Mais le continent africain, c'est un continent de passionnés. Hein. C'est une pression qui est parfois débordante. Moi, je pense qu'elle va être exceptionnelle, cette CAN. En plus, dans un grand pays du football, non pas africain, mais mondial, je dirais. Parce qu'on le voit avec les résultats que peuvent avoir le Maroc. Les résultats récents, tout ce qu'ils mettent en place autour du football, les infrastructures, les stades pour la CAN. C'est remarquable. Maintenant, c'est vrai que là, comme l'a dit Younes, hein, 30 millions de Marocains qui vont être chaud bouillants derrière leur équipe. Est-ce que ça peut les galvaniser ou les tendre, ça?
Ça, on peut pas le savoir. Ça, c'est sûr.
Ça, on peut pas le savoir. Ouais,
général, normalement, quand tu vois l'excitation.
T'as une pression sur Walid Regragui, hein.
Les supporters attendent du beau jeu aussi. Ils n'attendent pas juste des victoires. Surtout avec l'équipe.
Attends,
le public marocain est exigeant.
Après Younes, c'est toujours pareil. Quand tu gagnes les grandes compètes comme ça, alors bon, il y a des histoires en effet où tu gagnes une grande compète. Pas forcément, des fois, il y a des équipes qui n'ont pas été les plus spectaculaires et les plus beaux à voir. Maintenant, la plupart du temps, c'est quand tu as maîtrisé les événements que tu gagnes les grandes compétitions.
La Côte d'Ivoire qui avait changé de sélectionneur, toute cette histoire c'était un truc de malade.
Bon, après, pourtant, ils avaient un génie sur le banc avant, c'était Jean-Louis Gasset. Il n'était pas cramé du tout. Mais à l'arrivée,
le plomb, il a rien demandé s'il prend un tacle.
Il l'a demandé, parce qu'à l'époque, il nous a donné des leçons, et à l'arrivée, heureusement qu'Emers Faye est arrivé. Mais n'empêche que, pour revenir au côté spectaculaire, j'imagine quand même que si le Maroc, de toute façon, Younes, on le voit, hein, et Manu et Benoît, vous pensez comme moi, j'imagine, le Maroc est allé en demi-finale de la Coupe du Monde, avec une certaine structure, et c'était quand même beau à voir jouer et bien bonifié par certains grands joueurs, dont Hakimi fait partie. Et puis, depuis qu'ils continuent leur record d'invincibilité, franchement, le Maroc, c'est pas mal à voir.
Il y a des certitudes, bien sûr.
Et un grand gardien.
Et un grand gardien.
Non, mais c'est ça, de toute façon. Ouais. Franchement, ils ont, vrai, hein, ils ont tous d'une grande équipe, de toute façon.
Ils ont Achraf Hakimi.
Ils ont tous d'une grande équipe.
Ils ont des bons joueurs. Accueillons Pape, supporter du Sénégal au 32-16.
Oh là, Pape, il va pas être d'accord. Salut, Pape.
Nagalef. Oui, salut, Manu.
Salut, Pape.
Le
Parisien. C'est toi, Jérôme.
Moi, je suis Marseillais, je vis à Marseille.
Ah, bah, on a tous. Mais Pape, on a tous des problèmes, dans la vie.
Pour cette CAN, ça va être très difficile pour le Maroc. Parce que le Sénégal, déjà, a placé la barre très haute en disant Pape Thiaw, si tu ne gagnes pas, il faut que tu gagnes la Coupe d'Afrique. C'est signé et bon, c'est acté presque, parce que s'il ne gagne pas, il ne va pas rester comme sélectionneur. Bon, mais ça va être très difficile, parce que maintenant, jouer chez toi est plus difficile, parce que la pression déjà, et les équipes sont plus à l'aise en dehors de leur...
pays.
C'est un vrai débat. Est-ce qu'on est meilleur à domicile ou loin de chez soi?
Ça se vérifie pendant la Ligue des Champions et d'autres matchs. Ils sont plus à l'aise. Ça va être très difficile. Et moi, je ne le souhaite pas, parce que je suis un peu entre le Sénégal et le Maroc. Ce sont des frères. Je supporte un peu le Maroc s'il n'y a pas le Sénégal. Mais s'ils perdaient contre le Comore, d'entrée, ça va donner...
C'est le match joueur. C'est sûr.
Ça peut être le déclic pour qu'ils gagnent la Coupe.
Mais toi qui connais bien le foot africain en tant que Sénégalais, forcément, comment tu juges le Sénégal? Parce que nous, de là en Europe, on dit il y a deux équipes favorites, hein, pour cette CAN. Alors il y a d'autres belles équipes aussi, et moi je suis d'accord avec l'analyse tout à l'heure de Nico, et même de Benoît Costil, qui disait que on va vivre certainement une magnifique CAN. Il y a une excitation particulière avec les infrastructures, mais surtout avec la qualité des équipes. Le Sénégal, tu les situes où, toi?
Parce que c'est la canne de l'incertitude cette année. Parce que les années passées, il y avait des stars dans les clubs,
ouais,
dans les équipes nationales.
C'est
il y avait Mahrez, Algérie, Sénégal, Mané, et Mohamed Salah, JS. Et l'histoire est déjà passée. Ils ont déjà écrit l'histoire. L'histoire est déjà faite. Bien qu'ils sont là, mais c'est la canne des révélations. Il y a beaucoup de jeunes comme Lamine Camara, Jackson au Sénégal, ouais. Iliman et consorts. Ils vont faire. Il y a aussi la star, c'est presque Osimhen et Hakimi.
D'accord.
Et c'est la canne des révélations. Le Sénégal se situe en troisième position, à part la Côte d'Ivoire. Parce que si tu gagnes une coupe, dans ta tête, bien que la coupe est très infidèle, la coupe est infidèle. Il ne va pas rester là où il était. En général.
Ah là là, hein,
Pape, c'est pas que Manu, alors.
Pape, t'as tout compris, tu te mets outsider, tu t'es mis outsider comme
bravo,
ça.
Non,
t'as pas de pression. Si. En tant que supporter marseillais, c'est normal, vous êtes toujours en outsider.
Si tu vois le Sénégal, si tu vois ligne par ligne, oui. Edouard Mendy, Alidou Koulibaly, Niakite, Malick Diouf qui joue en Angleterre, Crépin Diatta, Idrissa Ganagay, Pape Gueye, tu vois ligne par ligne, Mané devant, Ismaël Sarr et Ibrahim Mbaye
en renfort.
Et Ibrahim Mbaye peut être la grande révélation si on lui fait confiance. Parce que moi, j'ai déjà dit que si Pape Diaw osait jouer avec les jeunes, parce qu'avec l'intensité que les jeunes jouent, en ce moment, Mané et Idrissa Gueye ne seront pas à la hauteur, peut-être.
Ah oui, c'est possible.
Ils sont toujours bons.
C'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Et les jeunes joueurs sont tellement. Physiquement, ils sont bons et techniquement, ils sont très bons. J'aimerais bien qu'ils me fassent jouer les jeunes pour qu'on puisse.
Pape, merci beaucoup d'être venu au 32
ans. On va se régaler à t'entendre et à nous parler de cette génération du Sénégal. Il y a quand même des belles équipes.
Exactement.
Voilà, et ça arrive encore, Jérôme, pour être allé au Sénégal dernièrement, il y a de gros talents.
Il y a des talents qui arrivent.
Exceptionnel.
Merci, merci à Pape d'être venu au 32-16.
Avant la CAN, on dit 1-2-3.
Merci.
Vive à l'Algérie. Hein.
Merci contre, à nous.
Plaisir.
Les sélectionneurs, s'ils ont tous la pression du président de la Fédé.
Merci à Younes.
Dis-moi,
Magri.
Finale, Maroc-Algérie.
On va la gagner, Inch'Allah, on va la gagner.
Younes, tu penseras à moi. Maroc-Algérie, victoire de l'Algérie.
Ah, j'espère qu'elle sera en finale et qu'on la gagnera.
Et voilà, franchement. Et dans un instant,
on t'appellera, on le fera en direct.
On vous explique pourquoi. Mickaël Landreau.
Et bonne retraite, Younes.
À l'arbitrage. Merci, Younes, en tout cas, d'être venu. On parle de Mickaël Landreau et on fera quand même le bilan des joueurs de Ligue 1 dans un instant.
C'est un mauvais week-end, il est parti.
À tout de suite.
C'est jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de l'année avec Manu Petit, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, c'est le quiz de Louis Gerbier, si on le récupère, parce que depuis le début de semaine, il est complètement absent, en espérant qu'il soit là pour vous faire gagner un super cadeau. Mais avant, on va parler de l'info du jour. Et là, autant tout à l'heure, l'Espagne a tremblé avec le record de Mbappé. Et là, c'est le football français qui tremble. Mickaël Landreau quitte l'arbitrage.
Juste avant la fin de nos bilans de la Ligue 1 avec le bilan des joueurs, effectivement, l'info qui vient de tomber, donc la fin de la collaboration entre Mickaël Landreau et la direction technique de l'arbitrage.
Non, c'est pas vrai, mais c'est sûr.
Le communiqué de la Fédé, la fédération a pris acte de la décision de Mickaël Landreau de mettre un terme à ses missions de consultant sportif et porte-parole au sein de la direction de l'arbitrage. Il était arrivé en 2024. Il a porté son regard de joueur et il a donc décidé de mettre un terme à sa mission. Je vous lis quelques phrases de sa déclaration. J'ai vécu une expérience professionnelle, enrichissante aux côtés des arbitres de Ligue 1. J'ai exprimé mon point de vue sur certaines décisions, en approuvant plusieurs et en questionnant sur d'autres lorsque ça me paraissait nécessaire. Ça a parfois suscité des critiques auxquelles j'ai toujours répondu avec sérénité. Contrairement à ce qui a pu être écrit, je n'ai jamais renié mon passé de joueur et d'entraîneur. J'ai simplement constaté que les points de vue pouvaient varier selon la place que l'on occupe. Donc, Mickaël Landreau qui quitte la DTA. Seule question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est une mauvaise nouvelle en termes d'image pour la DTA, parce que c'est le seul ancien joueur qui faisait partie de l'organisme, Jérôme. Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, je sais pas. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, ça c'est sûr, parce que quand t'intègres comme
venu
ça
ici en début
un
saison,
ancien joueur, un ancien coach ou un ancien dirigeant, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui venait pas de l'arbitrage, qui était là pour faire bouger un peu le cocotier. Il a rien réussi du tout en fait. Donc moi, je lui en voulais énormément sur le début de saison par rapport à ce qu'il nous a mis, ce qu'il nous avait dit ici même dans Rotten sans flamme au mois d'août ou au mois de septembre quand il était venu, parce que il est venu avec un beau discours. discours. Moi, je pense que ce discours, il a été façonné par la direction de l'arbitrage et c'était pas forcément son discours, mais qui était là pour essayer de recoller les morceaux et nous dire plein de bonnes choses sur l'arbitrage. La preuve, c'est que quelques mois après, c'est lui-même qui s'en va. Donc c'est que il a pas réussi à faire bouger les choses. Peut-être que tout est bouclé, tout est verrouillé, et c'est vraiment la sensation qu'on a. Et c'est quand même pas bon signe pour la suite dans les échanges, dans les trucs. Après, ce qu'on peut mettre en avant à part de Mika, c'est quelqu'un qui est honnête,
ouais,
et que il est parti de lui-même. Il s'assoit quand même sur son contrat parce qu'il a un contrat. Alors il est ce qu'il est. Je sais pas combien il gagne, mais peu importe. Mais c'est un contrat qu'il avait. Et là, du jour au lendemain,
c'est
il s'en va.
C'est sa décision de partir, donc c'est...
Non, mais il est honnête de ce voilà, côté-là. Et comme quand il était... Après, on peut lui reprocher des choses et tout ça, son côté un peu politique par moment, et même moi, mais la vérité, c'est que c'est quelqu'un d'entier, d'honnête, et là-dessus, il a dit, bah écoutez, moi, j'arrive pas à faire bouger les choses, j'ai plus de retours négatifs qu'autre chose, moi, j'ai été très critique sur lui, et je l'assume, encore une fois, même s'il m'en veut, et c'est normal qu'il m'en veuille, par rapport au discours que j'ai eu sur lui, mais là, la vérité, c'est que je trouve que il fait la bonne chose, mais c'est tout un ensemble qu'il faut remettre en question. Et de toute façon, on est quand même dans la merde. Et je suis désolé du terme avec la commission, le comité d'arbitrage.
En quelques mots, Manu, comment tu prends cette décision, toi ?
Honnêtement, c'est pas négatif ou c'est pas dénigrant ce que je veux dire, mais ça me fait ni chaud ni froid, dans la mesure où même lors de sa nomination, j'ai bien senti que c'était plus pour essayer de se donner une certaine crédibilité de la part de l'arbitrage, parce que quand tu regardes toutes les instances, combien sont des anciens joueurs de haut niveau ?
Ah, très peu.
Bah tu peux même monter jusqu'en haut dans toutes les organisations sportives, il y en a pas, donc voilà, donc ça va changer quoi, son départ, puisqu'il n'y a jamais rien eu de révolutionné à ce niveau-là. Donc moi, j'appelle mon vœu justement pour la nouvelle année et pour les années à venir, que ceux qui nous dirigent une fois pour toutes continuent à faire de la politique s'ils veulent, mais qu'ils laissent les choses sérieuses à ceux qui savent, en fait.
Ben, comment tu réagis, toi ?
Ben, s'il s'en va, déjà, c'est courageux de sa part. De partir comme ça, comme l'a dit Jérôme, c'est courageux. C'est qu'il y a des désaccords aussi, sinon il serait pas parti. Et donc c'est que ça évolue pas en son sens et dans le bon sens pour le foot, j'imagine.
Ça changera jamais, en fait.
Donc ça changera jamais. Et puis on verra. Il y aura toujours des conneries sur les terrains chaque week-end. Et c'est ça qui est regrettable.
Après, moi, juste à rajouter, c'est que il est là, donc il était là depuis un an et demi.
Ouais.
Le connaissant quand même, et s'il est capable, avec le courage, de partir comme ça, je comprends pas pourquoi il a pas joué carte sur table jusqu'au début. Essaye de faire bouger les choses, s'il y a des choses qui vont le contrarier et tout ça. Pourquoi aller toujours dans le sens de cette direction d'arbitrage?
Quand il est face à toi, Jérôme, à l'antenne, il peut.
T'es obligé d'avoir un rôle politique. Ouais. On demande à des joueurs aujourd'hui de diluer leur message, leur comportement, leurs attitudes, leurs décisions.
C'est ça qui est dingue.
Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de joueurs, parce que nous, on est brut de décoffrage, on est un peu bourrin, tu vois.
Des fois, ça leur ferait plaisir de les secouer un petit peu.
On n'est pas des politiques. On n'est pas comme les gens qui nous gouvernent.
Nous, on n'est pas des politiques, t'as raison. Nous, on voit le jeu, la passion du football qu'on a.
On a nous aussi un arbitre vidéo et justement, il t'appelle, Jérôme. C'est parti.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
Et le jeu en deux touches de balle, le centre en retrait pour Greenwood. Et ça fait 4. Et ça fait 4. Quadruplé pour Mason Greenwood. Et il y en a deux du gauche, il y en a deux du droit désormais. Il est en train de vivre une soirée exceptionnelle.
La VAR de Rotten sans flamme.
C'est la fin des bilans de la première partie de saison de Ligue 1 dans Rotten sans flamme ce soir, après les clubs mardi, les entraîneurs hier, les joueurs aujourd'hui. Vous avez entendu Mason Greenwood, qui est donc le meilleur buteur du championnat après 16 journées disputées. Il porte l'OM sur la première partie de saison. 11 buts, 3 passes en 15 matchs. On peut citer d'autres joueurs qui sont illustrés. Florian Thauvin à Lens, par exemple. Et il y en a d'autres. Vitinha qui tient la baraque au Paris Saint-Germain. C'est plus compliqué pour les grandes stars parisiennes qui ont très peu joué, Désiré Doué ou Ousmane Dembélé. Question ce soir, est-ce que Greenwood, est forcément le MVP de cette première partie de saison, Jérôme ? Ou pas forcément pour toi ? Tu mettrais qui en meilleur joueur ?
C'est le pichichi. Si tu vas par rapport à ce que tu m'as dit sur Kylian Mbappé, il n'y a pas photo. Oui, bien sûr que Greenwood fait partie des meilleurs du championnat et il le montre.
Si tu dois retenir un joueur, est-ce que c'est lui que tu retiens ?
Moi, je retiendrais Flo Thauvin.
Ouais.
Parce que Flo Thauvin, personne ne l'attendait à ce niveau-là. ce que je veux dire, pas à ce niveau-là. Ben attends, moi je l'ai vu débuter à Bastia. On a joué ensemble. C'est un joueur qui est pétri de talent et qui marque beaucoup de buts et qui fait gagner ses équipes. C'est vrai que.
Jérôme, je peux juste interrompre deux secondes.
Vas-y.
Je serais curieux de savoir le nombre de fans de foot français qui ont vu les performances de Flotova en Italie pendant 2 ans et demi.
Non, ouais,
très peu. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a vu. Il a eu 6 mois d'adaptation après son passage au Mexique, son retour de blessure, etc. Il a eu 6 mois à Udinese. Derrière, il fait 2 années exceptionnelles.
Ouais, je suis même
surpris que Lens qui l'appelle en fin de mercato.
Mais c'est vrai. Ouais. Mais pour preuve, mais je vais te dire, Benoît, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs et beaucoup de dirigeants qui n'ont même pas regardé ses performances et qui ne se rendaient pas compte de ce qu'il faisait à Udinese.
Sans aller dans les secrets, quand je vais à la Serenitana, le premier match ou le deuxième match contre Udinese, je dis à Flo, mais wow, tu retrouves du pep, tu retrouves du tonus, etc. Je dis, mais t'as pas un club français qui t'a appelé? Il m'a dit, Ben, je suis proposé à des clubs pour un salaire dérisoire. Ils l'ont pas calculé. Et pas des top clubs de Ligue 1, attention, qu'ils voulaient rentrer en France.
Oui, c'est ça.
Personne l'a calculé.
Tu peux me donner des noms ou pas, Benoît? À qui il s'était proposé à l'époque?
Non. Mais je crois que c'était des clubs du Sud, par rapport à l'aspect familial, etc.
Ok.
Donc club du Sud, tu fais le calcul, Montpellier,
OGC Nice.
Non, mais il peut y avoir Monaco,
ce genre de club.
Monaco aussi, mais
les deux premiers, je pense.
Ce que je veux te dire, c'est que on est obligé de retenir Flo. Pourquoi? Parce que bon, déjà, ça me fait plaisir qu'il retrouve ce niveau-là. Comme quoi, le niveau qu'il avait atteint, contrairement à ce que certains ont pu dire sur lui, est très critique. Quand t'es à un niveau international, t'as quelque chose en plus dans tous les cas, et il le montre et il permet à cette équipe de Lens d'être premier du championnat.
Ah ouais.
Et c'est pour ça que pour moi, c'est au-dessus aujourd'hui de Greenwood. Greenwood, c'est fantastique. Parce qu'on a l'impression que si Marseille, t'as pas Greenwood et t'as pas Rulli, je peux te dire qu'il serait même pas cinquième du championnat.
On peut dire c'est presque normal parce que le talent de Greenwood, il est exceptionnel.
C'est vrai.
En fait.
C'est vrai.
Tu mettrais qui, toi, Manu? Pardon.
Moi, Greenwood. Même si je suis d'accord avec ce qui a été dit sur Flo Thauvin. Mais Greenwood, pourquoi? Parce que Marseille, c'est un club à part. Marseille, c'est un club où une pression, qui est incroyable au quotidien. Quand on connaît les 2 dernières années de Greenwood, depuis qu'il est parti de Manchester United, dans les conditions que l'on connaît, c'est très compliqué de faire le chemin de la rédemption et de regagner un petit peu des lettres de noblesse. Et aujourd'hui, je trouve ça salvateur et rafraîchissant, en fait, et de se dire que Greenwood, s'il ne joue pas depuis le début de saison à l'Olympique de Marseille, jamais Marseille est à ce niveau-là de la compétition. Il a sauvé nombre de fois incalculables les meubles, lui tout seul.
Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions.
Si je prends le dernier match de la Ligue des Champions, c'est quand même
s'il
n'est
pas là, il perd.
En Belgique, c'est impressionnant. Il y en a plein des matchs comme ça, j'en ai plein depuis le début de saison.
Bah, Monaco, la dernière victoire de Monaco, c'est lui qui met le but à la fin.
C'est, à mon avis, un des rares joueurs qui a le niveau international du côté de l'Olympique de Marseille et dans notre championnat de France.
C'est vrai,
Benoît, tu joues Thauvin aussi, du coup? Enfin, tu mises sur Thauvin?
Alors, je vais m'égarer un petit peu, mais j'aurais quand même envie de mettre en avant Jean-Louis Léca, parce que et mettre en avant aussi le parcours de Lens. J'ai beaucoup aimé Lyon cette année, les joueurs de Lyon. J'ai beaucoup aimé Strasbourg, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit, mais avec moins de régularité que Lens. Et je dis Jean-Louis Léca, pourquoi? Parce que je pense à Mathieu Oudol, je pense à Thauvin, je pense à Robin Risser, à Mamadou Sankaré, à Hudson Edouard, tout ça. Je trouve qu'ils ont fait une saison exceptionnelle. Et je ne peux pas citer ces joueurs-là sans parler de Jean-Louis Léca, qui les a pris, ces joueurs. Je trouve ça fantastique. Si. Le retour de Malang Sarr aussi à un top niveau.
C'est fou. Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même surperformé les Lensois.
Ça, on verra sur la deuxième partie.
Peut-être. J'ai aimé un Tyler Morton.
C'est pas mal aussi.
Alors, si on cite des personnes, là c'est des joueurs, mais moi j'ai envie de citer 3 entraîneurs quand même.
Ouais, on les avait fait hier,
Pierre Sage.
Pierre Sage, bien évidemment.
Ouais. Pour changer.
Non,
c'est normal. Mais c'est ce qu'on a dit.
Il a donné à César ce qui lui appartient.
C'est normal.
Et même si le deuxième, ça va pas te plaire, c'est Abi Bey. Parce qu'il était à 2 doigts de se faire tège. D'être en rupture totale avec son vestiaire et quand je vois comment il a roulé.
C'est trop choc qu'il ait eu lieu sans changer d'entraîneur.
C'est quoi la.
Et le troisième entraîneur, après tu pourras dire quelque chose. Non, le troisième entraîneur, et pourtant je l'ai critiqué.
Ouais.
C'est l'entraîneur de Lyon. quand je vois ce qui s'est passé avec les nombres de mois de suspension, avec l'équipe, l'effectif qu'il a, avec tous les joueurs, les tauliers qui sont partis à l'inter de saison, quand tu vois la saison qu'ils sont en train de faire, alors, chapeau.
Vous savez que dans Rotten sans flamme, il y a des promesses.
Mais tu peux répondre par rapport
on
à Abibay.
Non, mais pourquoi tu mets une sur Abibay?
Même Pierre Sage, à chaque fois qu'on parle des entraîneurs français, tu leur mets des taquets. Donc,
Jérôme. Mais c'est dingue, c'est fou alors, quand même.
Ne t'égare pas, ne tombe pas dans ce piège.
Je même pas
tu devais donner les tops, les flops des consultants de Rotten sans flamme. Donc je veux ton top.
Là, sur ce que vient de dire Manu, forcément,
du dernier.
Allez, en quelques secondes, avant de dire Chantal, la gagnante du jeu de Noël.
Le top? Ouais. Le top, franchement, parce qu'on n'était pas habitué, mais moi je suis content et c'est pas parce qu'il est là de l'arrivée de Benoît Coustil et de Younes Belhanda.
Oh là là,
parce que franchement, je sais que c'est pas facile d'intégrer la bande comme on est. Nous, ça fait des années qu'on bosse ensemble et de s'intégrer comme ça, de donner son avis, de pouvoir nous couper par moment. Je sais que on est très chiants. Tous les plus vieux et donc moi je les félicite parce que ils
c'est
ont
plein de joueurs qu'on sort tu vois Jérôme la difficulté aller parce qu'on a du respect pour les
anciens
gars, pour les
vieux
etc pour bien les anciens sûr. Donc tu prends des tu
fais rien
tu mets les formes
vieux, mais il a
non mais c'est la vérité c'est vrai
tu mets les formes après les flops vous les connaissez de toute façon à travers ceux qui suivent les notes de Rotten sans flamme on a un Steve Savidan et Pascal Olmeta qui sont très dans le classement, mais je leur souhaite l'année 2026 d'être meilleur dans l'analyse.
Méchant, ouais. C'est les fêtes de Noël.
Non mais.
Mais un petit cadeau sous le sapin. Ben après,
je viens te dire, ils ont une petite passe de bonne fête et en 2026, je suis sûr qu'en termes d'analyse, ils seront meilleurs.
Façon, ton cochon,
ça peut pas être pire.
On les embrasse en tout cas, les deux. Accueillons Chantal, qui est la grande gagnante du jeu de Noël
c'est
ce soir.
Il s'appelle Chantal. Oui, alors je m'appelle Chantal.
Chantal.
Bonsoir, Chantal.
Bonsoir, Chantal.
Bonsoir.
Comment tu vas, Chantal?
Très bien, merci.
Bon, écoute, on est très heureux de t'accueillir, Chantal, pour ces fêtes de Noël.
T'as reconnu, Pascal.
Dernière émission de l'année. Eh ben, écoute, t'es la grande gagnante de notre jeu. Alors, écoute, je vais ouvrir la case. C'est du cash aujourd'hui. Bah,
c'est 500 ou 1000 euros.
Voire
5000.
Si c'est 500, Jérôme, il s'engageait le doublé.
À doubler, ouais. Exactement.
Et ben, c'est quoi, Chantal? Je transpirais. Alors... Et ben, tu as gagné 1000 euros.
Wow
1000 euros, Chantal.
Bravo, Chantal.
1000 euros
de gagné en ce 19
sous le sapin.
Voilà. Magnifique.
C'est cadeau de bravo, Jérôme Rotten parce que là je parle même pas des RMC, c'est moi. Hein. C'est,
hop, et tu doubles du coup Jérôme ou pas?
Doublé quoi? À 500 euros, je doublais.
Ah d'accord.
Voilà, donc okay. Là c'est 1000 euros.
D'accord.
Écoute, c'est magnifique Chantal, non?
Bravo Chantal.
J'ai une heure, Chantal. C'est 5% de tes rémunérations, c'est bon.
Écoute Chantal, on est très heureux pour toi. Okay. Et tu as des enfants?
Oui.
Bah, bon, tu les embrasses.
Bah écoute, ils vont avoir des beaux cadeaux alors.
Exactement.
Ah, ça c'est sûr.
Bon, bah écoute.
Au revoir Chantal.
Bravo Chantal, félicitations
bonne
encore.
Bonne fête.
Et dans un instant.
Salut Jean-Jean.
Notre cadeau à nous, le quiz de Louis Gerbier, tous contre Rotten.
Gerbier.
Allez, à tout de suite.
Il est où lui?
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h48 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. C'est les 10 dernières minutes de l'émission avec le quiz de Louis Gerbier qui est en mode photographe. Ah, je sais pas ce qu'il fout là, mais depuis le début de semaine, c'est catastrophique. Alors, est-ce que
j'ai peur de Manu, il m'a demandé de faire une photo, moi je fais une photo.
Ah d'accord, donc il dit de faire n'importe quoi, tu le fais.
Oui.
Ah d'accord.
Là, je suis content, Manu et Benoît. On a passé le test, l'éthylotest à Louis et aujourd'hui il est OK.
Ça va,
donc,
il est les prénoms.
Parce que depuis le début de semaine, je peux te dire que celui de mardi, il était plus loin d'être clean.
Écoutez ça, c'est top.
J'ai jamais vu un test comme ça.
Le pire, c'est qu'il était clean le test. Non. C'est ça le pire. Non, c'est ça qui est triste. J'aurais préféré être.
Tu peux l'avouer.
Mais
je pensais pour tes parents.
J'étais à l'ouest.
T'es reparti, je t'ai vu, je t'ai croisé, t'es reparti à pied.
Tu titubais.
Essayer de prendre le métro.
On va
traverser deux fois le tramway.
Elle est direct au ministère de l'Intérieur.
Tous contre Rotten.
Vont s'affronter ce soir Ludo et Franz. Salut à vous deux.
Salut Ludo, salut Franz. Salut.
Soyez les bienvenus.
Salut à toute l'équipe.
Bienvenue.
Nous recevoir.
C'est un plaisir. C'est un plaisir les gars.
Tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Ah, moi, je suis parisien dans l'âme, je vais jouer avec Jérôme.
Ah, ouais, bah, France,
Ludo,
on va gagner
avec
ensemble.
Le reste du monde, le cadeau.
On va gagner.
Enceinte prodige, la marque française, absolument. À toi, Louis.
Absolument. Je salue Benoît, j'ai pas eu le temps de saluer. Vous avez parlé de la CAN.
Ah oui.
Qui débute dimanche. Donc on va faire
Tu t'es pas trompé.
On va faire un quiz sur
la CAN.
La Coupe de France.
Ouais. Je vous ai bien dit, hein.
Ouais, ah, il y a de la géographie.
Me dis pas contre qui.
Excellent, bravo Louis.
On va se faire des petits matchs bien Coupe de France du week-end, quoi.
Oui. Non, mais bah oui. Manu, qu'est-ce que tu fais, Manu? Mais ça va pas ou quoi?
Je fais des paris sportifs. Question flash pour débuter. Quel est le dernier club hors PSG à avoir fait deux finales de suite?
Concarneau. Nantes.
Oui, bonne réponse.
Ouh là, je me suis dit.
Nantes.
Bravo, Manu.
Deux finales de suite. 2022-2023, dont une victoire contre Nice.
Elle te rappelle pas contre Toulouse, la honte?
5-1.
J'étais à deux doigts de dire, de toute façon c'est un club breton, donc c'est
bravo, obligé. Bah Nantes breton, tu lances un débat.
T'as pas honte, ça passe pas.
Benoît,
j'ai dit Nantes ou un club breton. Benoît, il était vachement représenté dans les finales.
Ouais. On se revoit l'année prochaine.
Question flash.
Jean-Pierre Papin.
Question flash encore. Le record de spectateurs pour une finale était de 80 056 personnes en 2009. Quelle était l'affiche?
Régiment.
Bonne réponse.
Bah oui, je t'ai dit, la Bretagne.
Eh oui, ils avaient envahi la gare Montparnasse.
Voilà, la Coupe de France me tient tellement à cœur parce que 2-0. Moi j'ai gagné.
Tu te fais ridiculiser là.
Guingamp, c'est Guingamp qui a gagné.
Ouais. Oui, deux fois, parce qu'en 2014, c'est de nouveau cette finale.
Ah bon,
c'est
dingue. Ils étaient en Ligue 2.
En 2014, Rennes a perdu.
Guingamp était en Ligue 2.
Il a gardé un but, non?
Ah, je m'en souviens plus.
Ah, d'accord. Ils sont descendus en Ligue 2 d'ailleurs, Guingamp.
Guingamp, oui.
Allez, 2-0 pour le
On embrasse.
Tiens, question que
style.
Oh oui, Greg, il sort. Ah oui,
il
va opposer Richard.
Il est de retour.
Ça suffit.
Après ce jour-là, il est devenu millionnaire.
Ah, ça suffit.
Dans une semaine, ce sera le divin enfant qui sera de retour. Oh, théologie.
Bah, Emmanuel.
On a dit qu'en 2014, c'était Benoît qui a pris les foudres de Guingamp en finale. Hein. Oui. Mais alors, qui était dans les buts rennais en 2009? Pour la première.
Il connaît tous ses.
Parce que j'ai un truc à lui demander après, donc je lui faisais une question facile.
Jérôme prend 3-0.
Tu peux appeler ton rein si tu veux, le roi des nains, mais pour t'aider, mais bon.
Tu veux des huîtres?
Tu veux des huîtres. Guingamp Laval. Ça sent pas la Coupe de France, ça? C'est ce week-end.
Le millénaire.
Autant en foot, c'est un petit match, autant en beuverie, c'est la Ligue des Champions.
Ah oui, là, c'est sûr.
Question con pour sur ce match. Quel joueur formé à l'en avant est toujours hyper bien habillé, hyper branché, hyper looké?
Il joue à Guingamp.
Là maintenant il y joue plus.
Il joue à Laval.
À Guingamp, il est connu.
Il joue à Laval.
Non.
Non, rien à voir.
Il joue à Guingamp.
Alors pour. Non, il a été formé à Guingamp. Il a joué à Guingamp. Il a été un joueur connu de Guingamp.
Toujours bien sapé.
De Guingamp, Gourvennec.
Si, Marcus Coco.
Ah magnifique.
Ah oui, Coco Chan.
Hey, il a le look Coco.
T'as le look Coco. Jérôme, t'adores la variété normalement.
Un quiz relancé, 4-0 pour le reste du monde.
Il est où Jérôme Roten?
Petit joker, Jérôme?
Attends, mais franchement. Ouais, je prends un joker. C'est une réponse à 4 points.
Joker Kings League.
Et ça, c'est une dinguerie.
Deux points si Jérôme répond bien, moins un s'il ne répond pas ou mal. Question Savidan.
Ah oui.
Avant Noël.
C'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi ça?
Eh oui, non, mais parce que ça fait longtemps, donc en fait, c'est.
Ah oui, c'est quoi alors?
Bah, je vais citer tous les clubs de la carrière d'un joueur, et bah, il a fait que des clubs pas hyper florichons, quoi.
Comme Steve, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Alors, on attaque avec un joueur qui a fini sa carrière à Guingamp. Formé à Toulouse, ensuite Le Havre, Toulouse encore, Amiens et Guingamp.
Ah ouais.
Voilà. Je l'ai, je peux le sortir moi?
Ah bah oui,
Thibaut Giresse.
Magnifique.
Ah oui, c'est vrai.
Oh merde, pardon.
Le fils de Gigi.
5-0, hein. 5-0.
Bah non, 5 moins 1.
Et ça vous fait rire.
5 moins 1.
Ça te fait rire.
Ah non,
mais attends, tu peux créer la remontada.
Peut-être qu'il y aura une remise à 0.
Tu m'as plombé l'émission de
la remontada. Jérôme, fais le malin. Je fais pas le malin.
Allez, 5 moins 1. Moi je pense à France qui a choisi Jérôme.
Oui, France. Question d'Imeco.
Bravo messieurs, vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Des grands hommes.
On cherche un homme modérément grand, mais quand même assez. Hein. On cherche un joueur formé à Laval. Toujours ce grand match de Coupe de France.
Et qu'est-ce que tu as sur ce match-là?
Moi, ça me fait rêver. Guingamp-Laval.
Non, mais d'accord, mais on les aime bien, les Lavallois, mais sans déconner.
Moi, c'est Olivier Frappoli.
Vas-y. Allez. Bah, formé à Laval, je viens de le dire. Ensuite, Lille, Auxerre, Köln, Amiens, Stade Rennais, Stuttgart.
Guirassy.
Oh là là là, la boucherie.
Attention, c'est relancé. 6 moins 1, du coup. 6 pour la le reste du monde. Moins 1 pour Jérôme.
Indécent. Je réponds même pas, tu vois, par compassion.
Ludo et Franz, question auditeur. Question auditeur. Personne ne répond.
Elle est
en studio.
Pour être à zéro.
De la peine pour toi.
Normalement, si vous avez bien écouté le quiz, vous avez la réponse. Ah. Quel est le dernier club hors PSG à avoir gagné la Coupe de France?
Nantes, Ludo.
Non, c'est pas ça.
Nantes.
Non, toujours pas.
Ah. FC Nantes.
Encore une fois.
Non.
Non. Rennes, il a dit.
Guingamp.
Non.
Rennes.
C'est Benoît qui l'a glissé discrètement au début de quiz. Laval. C'est dans le sud.
Laval. Dans le sud, oh.
J'en ai reparlé en parlant de Thibaut Giresse.
Et Pidjoun.
C'est pas vrai.
Toulouse.
Le stadium. Oh, merde. Mars.
La saucisse,
Toulouse.
Allez,
je crois que c'est France.
Non, je crois que c'est France. Oui. C'est France.
Voilà, c'est bien, vous revenez à zéro, France et Jérôme.
C'est bien, c'est zéro. Ta gueule.
Non.
Pas le droit. Ah, mais si, la dernière émission de l'année, on peut se lâcher.
Allez, la dernière routine de 2025.
Et vous ratez pas. Attends, vas-y, je regarde la roue.
Vas-y. Non, mais là, elle est lourde aujourd'hui. Elle est lourde.
Vas-y. Stop.
Le score est remis à zéro.
Oh,
incroyable.
Non, regarde,
Arnaque.
Il en rigole, le producteur.
Mais escroc. C'est dingue cette roue. 0-0.
Escroc.
Allez, France. Allez, Jérôme.
Oh, putain.
Alors que c'est le hasard, elle a un côté un peu espiègle. Hein.
C'est vrai. Tout à fait. Allez.
Allez, on va partir en vacances avec une question.
Allez, une belle question. Allez, une question petite. Question petit.
Alors, ça c'est la question. Bon, c'est l'Italie, mais.
J'aime la bouffe, j'aime les voyages,
j'aime le sexe.
Maintenant, je suis subi dans quel ordre en fait?
Il est temps que ça s'arrête.
Allez, on va voyager aujourd'hui. Le leader de Ligue 1 va affronter l'entente Feni-Aulnois.
Ouais.
L'entente Feni-Aulnois.
C'est quoi ça?
Mais c'est où ça? Donnez-moi la grande ville la plus proche.
Dunkerque. Amiens.
Non.
Angoulême. Feni-Aulnois.
Bordeaux.
Rennes.
Ça fait rêver.
Lille. Strasbourg. Lens. Lille.
Dans le nord. Dans
Valenciennes.
Non.
Calais, Dunkerque.
Non.
Boulogne.
Roubaix.
Non, mais on n'est pas loin au niveau de l'envie d'y aller en vacances.
Maubeuge.
Oui, bonne réponse de Manu Petit. Maubeuge.
Et la victoire du reste du monde.
Parce qu'on a sorti tous les noms de
Ludo sur RMC avec l'enceinte prodige de la marque française Absolument. Éco-responsable, durable et haute fidélité, c'est l'enceinte de toute une vie. Rendez-vous sur a-absolument.fr.
Un grand merci à Louis Gerbier, à Manu
merci,
Petit, à
joyeuses fêtes.
Et dans un instant,
merci,
Génération After avec l'After Live, la Coupe de France qui commence ce soir avec les 32e de
Coupe de France. Moi, je vous remercie encore pour cette formidable année. Vraiment, merci à tous. On s'est régalé tout au long de l'année, mais on va encore se régaler en 2026. On se retrouve le 5 janvier 2026. Soyez là à partir de 18h au Train sans flamme. Reprend ses droits. Mais là, on va couper pendant les vacances. Donc, restez bien à l'écoute. Faites-vous tous les podcasts de Roten sans flamme. Abonnez-vous à la chaîne Roten sans flamme parce que je sais qu'on va vous manquer. Et passez surtout de très bonnes fêtes. Vraiment, on est là, on est bien et on va passer des bonnes fêtes et surtout bien se remettre pour 2026. Bisous et au 5 janvier 2026. Merci à tous.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.